Oui, l'exposition, donc ici ailleurs, s'est tenue à la friche La Belle de Mai et, comme tu le disais, a ouvert ses portes 12 janvier jusqu'au 31 mars et a invité 40 artistes du pourtour de la Méditerranée. Parce qu'en effet, pour répondre à cette thématique, à cette orientation définie de la capitale européenne de la culture, il a semblé simple, évident, d'inviter des artistes issus des pays du pourtour de la Méditerranée. Sauf qu'une fois énoncé cette idée, je me suis vite aperçue que c'était fort compliqué, dans la mesure où la Méditerranée déjà est quelque chose, un territoire difficile à définir, même si les différents pays qui l'abordent ont des points communs, et qu'il était encore plus illusoire d'imaginer que il y avait une scène méditerranéenne qui existait aujourd'hui. Donc l'exposition ici ailleurs, d'emblée, n'a pas prétendu être un panorama de la création en Méditerranée. Et nous avons imaginé partir de cas concrets, de propositions d'artistes issus de ces deux rives, et qui étaient, à mes yeux, le seul mode susceptible d'appréhender cette réalité plurielle, mouvante, qui est essentiellement donc en définition. Et qui recoupe évidemment ce qu'est un artiste aujourd'hui, c'est-à-dire un artiste est nomade, il voyage, ses résidences bien souvent constituent le lieu même et même existentiel de sa création. Et les artistes qui, bien évidemment, ne renient absolument pas leur origine culturelle, mais ils revendiquent aujourd'hui plusieurs points d'ancrage et élaborent donc un travail qui est issu précisément de ces différentes expériences qu'ils rencontrent à travers le monde, et puis évidemment avec cette mondialisation qui ne fait que l'accentuer. Si bien que le titre de cette exposition, ici ailleurs, renvoie précisément à cette position des artistes qui sont ni d'ici ni d'ailleurs, ou qui sont ici et d'ailleurs également, à cette disponibilité à toutes sortes de migrations possibles, et celle-ci étant favorable à cette élaboration d'identité plurielle en perpétuel devenir. Et ce matin, vous avez entendu donc Laurence Bertrand d'Orleac parler de l'importance d'un titre. Celui-ci ne fut pas aisé. Il a été tout d'abord un titre à l'étude, qui était celui auquel je m'accrochais pour bien expliquer aux artistes qu'il ne s'agissait pas qu'ils allaient d'une scène méditerranéenne que j'allais inventer, qu'ils n'allaient pas être le représentant d'un pays dont ils étaient originaires. Mais c'était un titre qui était évidemment un peu complexe et qui a donné quelques difficultés à la communication, c'est certain, parce que il n'était pas excessivement il était difficile à illustrer, à faire comprendre, et j'ai tenu bon bien souvent à ce qu'il n'y ait pas comme sous-titre des artistes méditerranéens ou une scène méditerranéenne. Et pour le catalogue ici, Flammarion a bien voulu m'entendre, mais quand même, on a ajouté une exposition d'art contemporain, parce que le titre était effectivement assez obscur. Aujourd'hui, je ne pense pas, parce que c'est un titre qui a fait école, mais vous le trouvez énormément, aussi bien des restaurants qu'en passant par des nouvelles revues. Alors ici, ailleurs, j'avoue que j'avais pensé au départ à ici et ailleurs, mais comme c'était le titre d'un film de Godard, évidemment, j'ai tout simplement enlevé le « et », mis une virgule, virgule qui était également difficile à faire accepter. Donc c'était une idée évidente, mais pas si facile à mettre en œuvre. En ce qui concerne la sélection des artistes, les critères sur lesquels que nous avons retenus étaient d'une part de choisir des artistes qui avaient déjà une certaine réputation, qui étaient des artistes confirmés, et la plupart connus sur la scène internationale, parce qu'il s'agissait aussi, par cette manifestation qui allait être présentée dans les locaux rénovés de la friche de Belle de Mai, qui avait en plus été dotée d'un nouvel espace, le panorama, de montrer que désormais elle pouvait accueillir des manifestations d'envergure internationale avec des artistes de renom. Donc la plupart des artistes, il y en a eu 40, étaient de la génération née dans les années 60-70. Il y en avait néanmoins une huitaine qui étaient plus âgés, qui constituaient des figures tutélaires. C'était Sarkis, Kounelis, Orlan, il y en avait à peu près 6-8. Ensuite, je me suis évidemment intéressée plus particulièrement et retenue des artistes dont le travail témoignait d'une réflexion sur les notions de migration, de déplacement, de voyage, d'exil. Les artistes dont le travail était ancré aussi aux questions identitaires, interrogeaient la relation entre les cultures, là c'était évidemment tout à fait important, et dans lesquels la part de l'hybridation était souvent déterminante. Alors j'ai commencé, et là nous sommes, il faut peut-être évidemment le rappeler, le sujet de l'exposition a été arrêté, on peut dire, tout au moins envisagé, c'était en septembre 2010, donc c'était bien avant aussi toutes les mouvements et révolutions qui ont animé les régions, les pays arabes. Et donc j'ai commencé à consulter les premiers artistes que j'ai consultés, c'était Sarkis, Kader Atia, Mounir Fatmi, après avoir été convaincu qu'encore une fois, on n'allait pas chercher à présenter une scène méditerranéenne, ont accepté de participer à cette exposition. Et dans la constitution de la liste des artistes à mes côtés, ça a été pour moi constituer une équipe, en fait, une équipe de co-commissaires, ou même de commissaires à part entière, et avec laquelle allait s'élaborer l'exposition, qui au départ, de façon délibérée, avait un concept d'exposition plutôt flou. Et là, je rejoins aussi ce qu'a pu dire ce matin, et c'était intéressant parce qu'elle traitait, elle, d'un sujet historique, Laurence Bertrand d'Orléac, c'est qu'au départ, vous avez quelques pistes, mais c'est vraiment, je dirais, le jour où l'exposition ouvre, que vous savez vraiment ce que vous avez fait avec les personnes avec lesquelles vous l'avez fait, et en l'occurrence, avec les artistes qui, eux-mêmes, je leur faisais absolument confiance sur leur capacité à peut-être à donner existence, à incarner un peu quelques pistes de cette scène méditerranéenne qui n'existe pas, mais ils appartenaient plus ou moins à ce territoire. Dans la décision des artistes d'accepter, parce que ça n'a pas été pour certains tout à fait aisé, parce que, comme le disait tout à l'heure Jean-François Chounier, la notion de capitale européenne pour un grand nombre de ces artistes ne signifiait pas grand-chose, c'est-à-dire qu'ils ne l'avaient pas identifiée, et dans le fond, cela se résumait pour eux à participer à une exposition de groupe, une parmi d'autres, et disons que c'était même moins attractif, puisque Marseille, Marseille-Provence, bien souvent moins attractif que ne l'aurait pu être une biennale, une parmi d'autres, où ils auraient accepté de participer. Donc pour les impliquer dans le projet, de façon à ce que vraiment ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, soit dans le choix d'une pièce ancienne, soit même dans le choix d'une nouvelle pièce. Donc il nous a semblé important de leur proposer de réaliser une pièce nouvelle. Ce n'était pas évidemment dans mon esprit une espèce de fuite en avant vers des nouvelles pièces à tout prix pour Marseille. Non, c'était pour qu'ils se sentent vraiment de ce projet et de réfléchir ensemble, dans la mesure du possible, à cette exposition. Et donc, parmi ces 40 artistes, ils ont évidemment été intéressés dans la mesure où, par ailleurs, ils avaient toute liberté, disons que c'était une espèce de carte blanche. Et bien évidemment, nous discutions ensemble. C'était moins facile pour ceux qui étaient loin, que je connaissais moins, où c'était vraiment une carte blanche à partir d'un synopsis qu'ils m'avaient donné. Et donc, c'était aussi de ma part leur donner la possibilité d'une belle liberté d'interprétation et non pas illustrer un propos, surtout pas. Mais c'était aussi accepté, même si c'était enthousiasmant, et accepter une grande part d'incertitude. et un peu de risque dans l'élaboration de l'exposition. Celle-ci n'a pris forme évidemment qu'au rythme de la conception des projets et de la réalisation des œuvres. Et certaines sont arrivées, on en a eu connaissance vraiment qu'un mois, voire 3 semaines avant l'ouverture de l'exposition. Et puis c'était aussi, pour moi, donc, l'idée d'essayer de les aider au maximum, d'être à leur côté avec l'équipe constituée notamment de 2 personnes absolument formidables, Marseille-Provence 2013 chargée de la production, Clémence Levasseur et Ariane Flaubert, plus la personne chargée du mouvement des œuvres, donc d'être au plus près et de faire en sorte qu'ils puissent les réaliser. Et avec toutes les surprises qu'on a pu connaître. Alors, d'abord, donc maintenant, ça ouvre, oui, ça va, parler justement de la production de ces œuvres nouvelles. Et nous étions très, très, très contents de voir que sur 40 artistes invités, il y avait un couple d'artistes, donc 39 si vous voulez, nous avons pu quand même réaliser 29 œuvres nouvelles, ce qui était quand même une lourde tâche. Et il avait été décidé pour chacun quand même le même budget. On avait donc divisé le budget que nous avions en nombre d'artistes. On l'a un peu réajusté au fil du temps parce que quelques artistes n'en ont pas bénéficié et n'ont pas eu le temps de réaliser des œuvres nouvelles. Donc on a pu redistribuer cette somme et faire en sorte que les œuvres donc, bénéficient d'un budget un peu plus élevé. Et donc j'ai rencontré bien sûr tous les artistes. Beaucoup sont venus à Marseille, même s'il ne s'agissait pas de réaliser des œuvres in situ, c'est-à-dire vraiment pour le lieu proprement dit, mais il était important qu'ils connaissent et Marseille. Ça donnait lieu notamment à tous ceux de la rive sud de la Méditerranée de venir, de rencontrer cette ville. Et je crois qu'il était tout à fait important qu'ils connaissent le cadre dans lequel cette exposition allait s'inscrire. Donc la part d'aventure, c'est que quand vous avez donc des artistes que vous avez choisis, vous pensez inévitablement, bien évidemment, à certaines pièces qui ont retenu votre attention. Et lorsque j'ai invité Mounir Fatmi, donc là vous avez trois écrans vidéo de sa vidéo. Moi j'avais imaginé, parce que ça m'arrangeait la suivante. Ça marche pas ? Ah oui ! C'est double clic sur quoi ? On m'a dit c'est juste là, juste. Non ? Bon, alors je reviens là-haut.
Double cliquer sur la première.
Bah, je vous laisse faire. Ah oui, je voudrais bien.
J'ai essayé. Hein.
Tout à l'heure, ça marchait. Voilà.
Et après, tu fais juste ça.
Oui, après, je vais. Voilà. Mais j'aime bien les bateaux du départ, mais ça, c'est New York. Donc, Mounir Fatmi, moi, j'attendais un peu de lui plutôt une installation. Et d'emblée, lorsque j'ai rencontré, il m'a expliqué que lui, il rêvait depuis longtemps de faire un film sur le voyage d'exil de Claude Lévi-Strauss, qui est parti de Marseille en 1941 pour rejoindre New York, fuir donc les nazis. Et ce voyage, il s'est arrêté en bateau à Casa et il est arrivé à New York. Donc, j'ai évidemment tout de suite renoncé à mon idée d'installation. Et lui était ravi parce que ça lui permettait de réaliser cette pièce qu'il avait en tête depuis longtemps. Et puis c'était un propos qui collait parfaitement à l'exposition. Donc les Claude Lévi-Strauss, cette figure de l'exilé, et la pièce de Mounir Fatmi sur une projection vidéo sur 3 écrans ouvrait l'exposition. Et autre pièce aussi proposée cette fois-ci par Orlan. Là aussi, j'avais imaginé plutôt une sculpture, une installation. Et lorsque je vais la trouver, elle me propose une vidéo sur les problèmes de naturalisation et la constitution des identités qu'elle voulait faire à Marseille, qui était une reprise, une nouvelle version d'une vidéo qu'elle avait faite précédemment. et elle a réalisé cette pièce. Vous voyez, c'est une vidéo de 4 heures, mais peu importe, elle défile très très lentement, et vous, enfin bien sûr, pour 4 heures, mais vous en voyez un instant, avec des drapeaux. Donc ce sont des 24 personnes qui ont été photographiées à Marseille lors de la cérémonie de naturalisation, avec les drapeaux de leur pays d'origine qui défilent hybridés avec le drapeau français. Donc, vous voyez, en tant que commissaire, donc j'avais bien souvent à écouter le propos des artistes, leurs demandes. Et moi, je conçois beaucoup mon rôle comme cela, d'être évidemment de leur permettre, lorsque ce sont des projets qui collaient bien, qui correspondaient aux propos de l'exposition, et qui étaient des projets qui avaient une vraie nécessité pour eux, de leur permettre de le réaliser, plutôt que de leur demander un nouveau projet qui, peut-être, aurait été moins réussi. Donc, dans les autres... il n'y a pas eu la photo, tant pis. Mais lorsque l'on demande, justement, des œuvres nouvelles, je vous dis, il y a quelquefois des imprévus. Par exemple, celle de Danica Dakic, qui est une artiste qui voulait elle aussi faire une vidéo sur mettant en scène les enfants de l'école maternelle de la Cité Radieuse. Vous verrez tout à l'heure probablement des photos de cette Cité Radieuse. Eh bien, il se trouve qu'il y a eu un incendie qui a endommagé une partie des bâtiments, pas trop gravement heureusement, et l'école a dû déménager et le projet a failli tomber à l'eau. Elle ne voulait pas en faire d'autres et elle a pu le faire, mais dans les derniers mois précédant l'exposition. Donc c'est vrai que travailler avec des artistes vivants, c'est passionnant parce que vous êtes vraiment dans l'aventure, et quelquefois c'est un peu de l'équilibre, parce que là on a risqué de se retrouver sans rien. Dans les œuvres qui ont été réalisées, je voudrais distinguer celles qui ont été réalisées vraiment sur place. Là, vous en avez, ici, c'est celle de Gloria Friedman, où elle avait à la fois apporté de son atelier de Bourgogne les deux sculptures que vous avez sous les yeux, ce projet qui s'appelait Le Délai, donc, et qu'elle a réalisé sur les murs même. Vous voyez, on la voit là. En arrivant, donc, elle m'avait fait un descriptif très sommaire de l'œuvre qu'elle voulait réaliser. C'est une artiste que je connais bien, que j'ai montrée autrefois à Musée Bourdelle. Mais voilà, encore une fois, elle est arrivée avec sa peinture qui était en fait de la terre. C'est une peinture à la terre qu'elle avait apportée de son jardin, disait-elle, de Bourgogne. Et donc, elle a réalisé ça en 2 jours dans l'espace qui lui avait été imparti. Autre installation, celle de Yazid Oulab, qui lui est un artiste qui était à Marseille, qui s'appelle La Halte, et qui, vous voyez, on voit l'installation là, et en même temps, vous voyez l'espace de la friche. La Belle de Mai, on y reviendra tout à l'heure, avec toutes ces colonnes qui rendaient la scénographie et l'installation assez complexes. Et donc Yazid Oulab, qui présentait donc une salle qui avait été tapissée de toute entière là de ce tissu camouflage, et qui était qui voulait témoigner d'une recherche spirituelle proche de la tradition musulmane. Avec vous aviez, enfin c'était très complexe. Et ensuite, dans les installations aussi faites sur place, qui nécessitaient donc l'engagement d'une équipe, comme vous avez pu voir tout à l'heure dans l'exposé de l'exposition de Annette, là vous avez l'installation terminée de Sarkis. Sarkis, ce sont des grandes impressions sur papier qui étaient à partir d'aquarelles qu'il avait réalisées, agrandies donc, et puis c'est cette petite plaque de cuivre dans laquelle elle se reflétait. Donc vous avez là une partie du montage. Ensuite, il y a eu des œuvres qui ont été réalisées à Marseille. Et là, vous avez ici une série de photos de Youssef Nabil. Alors, Youssef Nabil, qui a l'habitude de se portraiturer dans différentes villes, donc est venu à Marseille. Il a fallu organiser son voyage, il a fallu l'accompagner. Tout ça demande quand même Il faut être auprès des artistes. Lui, il ne connaissait pas Marseille. Marseille, même, pour lui, était, il habite New York. C'est un Égyptien, mais qui vit à New York. Marseille, à la lecture des journaux, lui semblait un repère très dangereux. Et donc, nous n'avons compris qu'après coup, parce qu'il était, il avait des demandes un peu de diva. On ne comprenait pas. Il était tout à fait charmant. Mais en fait, pour lui, Marseille, c'était évidemment la criminalité. Qu'il allait, donc, il fallait veiller, il fallait être auprès de lui pour le rassurer. Et il a fait cette série de photos où il se montre Angela Ba faisant face au point, à des lieux qui sont emblématiques de Marseille. Alors ensuite, il y a eu alors dans le cadre des ateliers de l'Euroméditerranée, qui étaient il y a eu des œuvres, il y a une soixantaine d'œuvres qui ont été réalisées dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans les lieux qui n'étaient pas des espaces non culturels de la région Marseille-Provence 2013. Et avec la personne en charge de ces ateliers de l'Euroméditerranée, Sandrina Martins, nous avons décidé de choisir six œuvres, six artistes, et de donner à leurs œuvres une visibilité dans cette exposition. Alors vous avez ici l'œuvre de Mohamed Bourouissa, ici Jamel Kokken, et celle de Wael Chokhi, qui était absolument exemplaire. Alors, il faut se dire aussi que ces œuvres-là, réalisées dans le cadre de ces ateliers de l'Euroméditerranée, ont pu bénéficier d'un budget beaucoup plus important. Je craignais d'ailleurs qu'il y ait un trop grand décalage, mais finalement, ça ne s'est pas vraiment perçu. Mais participer à un atelier de l'Euroméditerranée requiert de la part des artistes une beaucoup plus grande disponibilité, puisqu'ils devaient passer du temps dans les lieux qui les accueillaient. Alors là, une des pièces majeures de l'exposition, et c'est le film de Wael Chokhi, qui d'ailleurs a été montré avant à la Documenta. Je trouvais qu'il était préférable d'avoir des pièces majeures à mes yeux dans l'exposition, et que même si elles avaient été montrées, a fortiori, c'était encore mieux dans un lieu comme le Documenta. Ça, c'était une collaboration, et donc on a Marseille Provence a donc coproduit ce film extraordinaire fait à Aubagne, donc à côté de Marseille, et avec des marionnettes conçues et réalisées par Wael Chokhi, un film musical avec chœur récitatif en arabe classique, une centaine de marionnettes en céramique, des santons et à l'exception de la musique, a été réalisé sur place. Hein.
Inaugurée au MoMA, elle part, la pièce va être présentée à New York dans quelques jours.
Et donc c'était vraiment une des pièces centrales de l'exposition, un film, bon, un vrai film de 52 minutes. Autre œuvre qui a été réalisée dans le cadre des ateliers de l'Euroméditerranée, celle de Tézir Banidji, qui a été réalisée à Salon, donc là on retrouve donc Marseille-Provence, dans une savonnerie, où il a réalisé, il a gravé lui-même l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, que vous pouvez lire directement. Il avait réalisé une pièce analogue, mais en chocolat, à Genève, quelque temps auparavant. Donc là aussi, et qui a été d'ailleurs toute consommée le jour même du vernissage par les visiteurs. Là, évidemment, le savon, c'était moins grave, si ce n'est que quand même, les gens avaient envie de prendre les savons. Vous voyez, la gravure est très, très belle. Et il a travaillé longtemps dans cette savonnerie. Je voulais voir Mona Hatoum, qui était, mais on la trouvera tout à l'heure. Ici, donc, il s'agit d'œuvres qui n'ont pas été réalisées, mais qui ont été réalisées dans les ateliers des artistes. Javier Pérez, artiste catalan, une vierge qu'il a appelée Virgo Mater, et qui avait une particularité, notamment une vierge enceinte, un sujet iconographique très rare, et dont le voile dissimulait totalement le visage, et le voile sur un corps en résine avait été réalisé à partir de boyaux de porc séchés qu'il avait d'ailleurs acheté à Marseille, qui donnait une espèce de transparence extraordinaire et une espèce de dentelle aussi. On avait l'impression que c'était un voile de dentelle, mais très spécial, et faisant de cette Vierge un être des plus étranges. Autre œuvre aussi qui a été réalisée, elle, en Égypte, de l'Arabe Aladi, et qui a été présentée au Panorama, dans cet espace, j'y reviendrai tout à l'heure, situé sur le toit de la friche La Belle de Mai. L'Arabe Aladi, qui vit au Caire, a donc, après beaucoup de projets, parce que là aussi, une chose importante, bien sûr, dans le meilleur des cas, je travaillais avec les artistes qui me soumettaient des projets. Certains, comme Mounir Fatmi, par exemple, tout à l'heure, et Orlan, savaient immédiatement ce qu'ils voulaient faire. D'autres, je choisissais avec eux entre plusieurs projets. Puis il y avait des questions de coûts, etc., bien sûr. Okay. Et là, il s'agit donc d'une ceinture de chasteté agrandie, immense, monumentale, qu'elle a donc réalisée, évidemment, qui s'appelait « La liberté viendra », et qui faisait écho, bien sûr, aux événements survenus en Égypte de l'année précédente, et enfin non, depuis janvier 2011, donc c'était bien avant, mais c'était aussi, bien sûr, une allégorie de toute l'érosion de la liberté dans le monde aujourd'hui. Vous la voyez ici. Alors, cette œuvre, ça a été un suspense pas possible. Le 25 décembre, moi, je reçois un texto à 8h du matin, le jour de Noël, disant, finalement, si vous ne me répondez pas tout de suite, s'il n'y a pas le transporteur, l'œuvre ne sera pas là à temps, etc. Pour vous dire aussi qu'elle travaille dans un contexte particulier en Égypte, que tout ça devait aller très, très vite. Et là, vous la voyez on voit, il y avait quand même un très grand hiatus entre le commissaire d'exposition où j'étais, moi, là, et elle réalisait, elle nous envoyait ses photos, là, donc en Égypte. Vous la voyez, la ceinture sur cette qui traverse les ruelles. Et les personnes qui travaillaient avec elle ignoraient complètement le sujet de la sculpture, parce que je ne suis pas sûre, disait-elle, qu'ils auraient été tout à fait en accord avec ce qu'elle voulait dire à travers cette œuvre. Et là, l'installation au Panorama. Autre œuvre qui a été réalisée, ça c'est celle de Her Sarkissian, qui présentait une série de 13 photographies, qui est un artiste syrien d'origine, mais qui vit à Londres, et qui a fait une photographie qui s'est intéressée aux descendants des Arméniens, qui pour échapper au génocide, et s'étaient convertis à l'islam, et qui depuis se sont, pour certains d'entre eux, reconvertis au christianisme, mais qui ont toujours vécu de ce fait dans une espèce de secret, enfin habité par ce secret. Et vous voyez des photos qui rendent compte de la clandestinité dans laquelle ils ont dû vivre. Et donc là, ces photos, vous voyez, il m'a décrit ce qu'il voulait faire. Je connaissais son travail, que j'avais vu à Sharjah notamment. Mais bon, lui, Dieu merci, il nous a envoyé très tôt. Donc elles étaient superbes, j'étais très rassurée. Mais d'autres, c'était au dernier moment souvent. Là, une autre installation qui traite du génocide de Libanais, Johanna Adjitoma et Khalil Jorej, avec ce tapis qui a été réalisé aussi en Arménie. Et puis alors, d'autres artistes ont préféré enrichir une œuvre existante, vous voyez, la réactualiser. C'est le cas de Gilles Barbier, avec cette œuvre qui s'appelle donc le Terrier, et dont la grande partie existait auparavant, et il a rajouté deux modules qui traitaient de la mémoire, notamment, voilà. Jean-Luc Moulin aussi, qui avait dans les années entre 1995 et 2002 effectué toute une campagne de photographie des jardins, une sorte d'inventaire des jardins de la Méditerranée. En a présenté certains, a fait des nouveaux retirages et les a montrés devant des nouvelles sculptures qu'il avait réalisées au Sirva à Marseille. Donc. Alors d'autres, c'était impossible, ils étaient trop occupés. Là, c'est le cas d'Adrian Pacci parce qu'il préparait sa rétrospective au jeu de paume. Là aussi, à partir du moment où ils étaient des artistes renommés, ils étaient très très sollicités. Et puis, vous avez aussi des surprises, c'est-à-dire que vous les invitez, par exemple, en 2010. Entre-temps, ils sont invités, ils deviennent tout de suite, ils sont beaucoup plus sollicités. Et finalement, l'invitation que vous leur avez faite passe au second plan, et c'est bien normal. Donc, il faut réajuster et les propositions. D'ailleurs, tout à l'heure, Annette, ça a été le cas, parce que quand j'avais rencontré Annette, elle n'avait pas encore, ou tout au moins, probablement, elle savait qu'elle allait être invitée à Strasbourg, mais elle pensait montrer une pièce, la première de tour d'exposition, Joël, mais finalement, les dates de l'exposition n'ont pas concordé, donc elle a fait une autre pièce. Celle-ci, c'est Sigalit Landau. Elle aussi, elle est venue plusieurs fois, elle avait plein d'idées différentes, et puis finalement elle a choisi de présenter cet abri, cette empreinte d'un abri anti-aérien que nous avons mis sur le toit. Vous voyez, finalement c'était assez, ça semblait très compliqué, mais il a suffi d'avoir une grue et de la poser. Ça a été très compliqué d'abord pour savoir, parce que en fait, pour tout vous dire, quand elle était venue, moi j'avais imaginé de la mettre dans le panorama, cette boîte blanche que vous voyez, sauf qu'elle ne passait pas vraiment dans la porte, tournait pas. Elle avait la hauteur, mais elle ne passait pas dans la porte, donc il a fallu.
Dire que Juliette est modeste, mais il faut dire que l'exposition consistait à faire une exposition à partir d'œuvres pas encore construites dans un lieu pas fini. Donc je pense que ça fait partie des éléments intéressants du métier de commissaire d'exposition qui arrivera à tout le monde à un moment ou à un autre, mais qui ajoutait un peu, parfois un peu de piment à la question de la production.
Oui, mais oui, merci de le rappeler, parce que c'est vrai que ça c'était, surtout que j'avais l'habitude d'un lieu,
j'ai toujours travaillé pour demander peut-être accélérer.
Voilà, alors je continue. Oui, bon. Donc une anecdote Kounelis, si, parce que c'est une anecdote qui pour vous est importante. Kounelis, qui pour moi était un artiste très important dans cette exposition, est venu à adorer Marseille, etc. On lui a réservé un très bel espace à la mesure de l'importance de cet artiste. Il nous envoie évidemment en juillet 2012, donc 6 mois avant l'exposition, même pas, un projet infaisable, parce qu'entre temps justement le bâtiment avait été rénové, et il nous en envoie pas d'autres. Donc on s'est rabattu, c'était bien sur notre pièce, mais beaucoup plus. Bon. Ensuite, Jamel Tata, c'est un cas intéressant, puisque lui ne répond jamais à une commande en quelque sorte, enfin, et il utilise les œuvres qu'il a faites auparavant, et pour laquelle on l'a présenté dans son intégralité. Vous avez là la friche avant. Et encore, là, c'est déjà bien, bien restauré, mais une multiplicité de colonnes relativement basses de plafond. Et l'architecte Nicolas Tourette est resté excessivement discret. Il a essayé de parce que la difficulté c'était aussi de faire en sorte qu'à chaque étage d'exposition, il y avait 3 étages plus le panorama. De faire en sorte qu'on puisse dispatcher en quelque sorte les vidéos, il y en avait 12 à tous les étages en quelque sorte, et donc d'imaginer des boîtes pour ces vidéos qui aient un plan différent à chaque étage. Et c'est ce qu'il a fait absolument en accord avec les artistes. Donc il fallait répondre aussi, d'une part se adapter à un lieu difficile. Difficile, vous avez vu toutes les colonnes, en cours de construction, et par ailleurs répondre, vraiment, il a travaillé en concertation avec chacun des artistes. Et donc ensuite, une fois qu'on a eu, donc c'est à partir du moment où on a eu les œuvres, que s'est élaboré le parcours, j'avoue assez facilement finalement, parce que donc sur 3 étages, le premier c'était 3 volets, le premier tout simplement dédié au voyage, au déplacement à l'exil, le second plutôt à l'histoire, au présent, le monde en question. Un troisième étage dédié plus particulièrement à la mémoire. Bien évidemment, les pièces auraient pu bien souvent appartenir à l'un ou d'autres des étages, mais bon, c'était aussi à ce moment-là essayer de trouver des affinités ou au contraire des dissonances et des réponses entre elles. Et le panorama, en guise de conclusion, qui offrait une synthèse des 3 chapitres. Et surtout, il faut bien l'avouer, des pièces énormes qui n'auraient jamais pu entrer dans... Mais bon, tout ça... Ensuite, que, Voilà, donc avec ça, on a pu voir. Donc finalement, ce que je dirais, c'est qu'à partir de toutes ces propositions, je crois que l'exposition se présentait comme une espèce de grand patchwork, une espèce de grand collage d'œuvres sensibles, insolites le plus souvent, qui, dans certains cas, avaient des correspondantes les unes avec les autres, quelquefois pas du tout, et qui offraient quand même du monde d'aujourd'hui, hein, et émanant d'artistes issus de cette région, leur vision. Voilà, c'était voilà ce que je pourrais dire.